Radio X.
Bien souvent dans le Dôme, à chaque fois qu'il y a des redoux, à chaque fois qu'il y a du verglas, à chaque fois qu'il y a une tempête de neige tardive, il y a toujours le baratin qui est enclenché, évidemment pour semer la peur, l'addiction au clic, et surtout pour mousser un agenda. Donc on rejette l'agenda ici, ça c'est clair, net et précis. On va tasser le baratin et on va aller rejoindre quelqu'un qui connaît ça pas pire et quelqu'un qui va fonder ses propos sur la réalité, pas sur de l'idéologie et de la peurologie. Carlos Ramirez, salut, comment ça va?
Bon matin, Dominique, ça va bien, vous autres?
Très bien. Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce que ça a un nom, ça? Il me semble que j'ai lu dans un papier le Colorado quelque chose. J'ai lu vite, remarque, là. Est-ce que ça a un nom, ça, le phénomène qu'on vit, ou tout simplement, on appelle ça la vie?
On appelle ça la vie. Du verglas, il y en a toujours eu. On n'était pas ici, les premiers colons n'étaient pas arrivés, puis il va y avoir des épisodes de verglas aussi. On va s'entendre là-dessus, là. Donc, c'est tout à fait normal.
OK.
Il y a un événement météo.
OK. Dans ce mouvement-là de météo, peut-être nous décrire factuellement à quel endroit la masse d'eau s'est nourrie. Est-ce qu'il y a une question de vent, de courant jet? Qu'est-ce qui amène cette mouvance-là, cette giblotte-là, comme on dit?
Il y a beaucoup d'humidité dans le sud des États-Unis, une conséquence, entre autres, du golfe du Mexique, qui a changé de nom dernièrement, mais qui monte avec les descentes d'air arctique. Ça crée la rencontre de ces deux masses d'air-là vont créer les systèmes qui vont nous toucher l'un sur l'autre. Et oui, le courant jet qui est plus qui oscille maintenant, qui fait tout monter ça vers nous au Québec. Donc c'est bien chargé d'eau, ça c'est certain. Puis le contraste entre ces masses d'air-là et qui crée ces systèmes-là, ben c'est encore là, c'est un phénomène tout à fait normal. Puis ça se voit assez d'avance. C'est plus au niveau de pour prédire le verglas, ça devient plus compliqué parce qu'il faut vraiment qu'il y ait certains ingrédients qui soient présents. J'en ai parlé dans les derniers jours, même le 5 mars, je pense, j'ai fait une petite avenue là-dessus pour comme je commençais à voir ça venir, mais on peut pas prédire, c'est pas les études des prévisions, là. On peut pas être certain avant quelques jours, peut-être, à peu près. Mais là, dans les circonstances actuelles, moi, ce que je vois très bien là, sur mes graphiques devant moi, la poche d'air là, qui va être au-dessus de la ville de Québec, ça n'a pas le choix de tomber en verglas pendant pas loin d'une douzaine d'heures. Là.
Est-ce que c'est massif ou est-ce que le baratin est exagéré? C'est-à-dire, c'est aussi gros que la crise du verglas, faites attention, restez à la maison. Il y a eu un délire, là. Les gens sont garochés, ils ont acheté 3-4 génératrices. Je veux dire, il y a eu évidemment la mouvance de peur. Là. Moi, j'ai plus peur d'Hydro personnellement et de son incompétence que du verglas comme tel. Mais qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est massif ou moyen?
Ben, je dirais moyen, puis vous me connaissez, je suis pas dans les émotions.
C'est ça.
Ça paraît aussi, je pense, dans mes écrits, là, c'est que ça peut créer des problèmes au niveau des pannes, là, ça c'est certain. Donc, le minimum de préparation, c'est chauffer un peu sa maison un peu plus que la normale, puis se préparer pour peut-être quelques heures, quelques jours, sans électricité, mais c'est pas hors du commun. Puis pendant la crise du verglas en 98, c'est parce qu'il y a passé un, deux, puis trois systèmes là, qui accumulaient encore puis encore de la glace. Donc, on n'est pas dans cette situation-là du tout. Là. C'est les vents aussi qui vont créer des problèmes derrière le système. Donc, demain, là, en plus, là, c'est parce qu'il va faire froid par la suite. Donc, ça permet pas à la glace de fondre rapidement. C'est là où est-ce qu'il faut plus être réaliste. Là. Dans le fond, c'est pas être dans la peur, mais être réaliste. C'est possible de manquer le courant quelques jours. Puis il y a des régions qui sont pires que d'autres. Puis les modèles sont tellement différents. Il y en a certains que je sais que si on fait un mix des deux, ça va être à peu près ça la réalité. Mais il y a des endroits peut-être qui vont s'attendre à avoir 15-20 mm puis finalement vont tomber 5-8 alors que d'autres qui attendaient 10-15 vont tomber 25. Il y a beaucoup d'incertitudes avec ce type de prévision.
Il y a 38 minutes, tu as mis le graphique Ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal et Ottawa. Quelle est la région qui va manger une plus qu'une autre?
Les météogrammes. Le météogramme, là, quand je regarde ça, là, ça ressemble pas mal aux alentours de Mauricie dans nos rivières. Je vois Laurentide au nord de Montréal, au nord du fleuve. Plusieurs régions là, que ça pourrait vraiment osciller là, dans les 30, peut-être même jusqu'à 40 mm à des places. Là. Ça, c'est sûr, c'est plus problématique. Dès qu'on passe le 25 mm, là, ça commence à plus causer de problèmes. Vraiment, surtout avec les vents, mais des endroits que ça va être moins venteux que d'autres, donc ça va peut-être donner un petit coup de main. Là.
On l'a vécu, on a eu un hiver froid. Je parlais avec beaucoup d'Américains ici, beaucoup de gens de l'Ohio, Cleveland, des gens de Pittsburgh, des gens de New York. Ils ont détesté l'hiver. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça, c'est un hiver de marde. Qu'est-ce que tu as expliqué, ce froid-là? Tu sais, le vortex, oui, oui, le vortex, là, on nous tape la tête avec ce mot-là à longueur de journée. Mais au plan scientifique, au plan de la mouvance des masses, qu'est-ce qui a expliqué l'hiver qu'on a eu?
Quand j'avais fait mes prédictions, je pense que c'est autour du 6 novembre, j'utilise entre autres l'oscillation quasi-biennale et certaines, j'utilise des télécollections océaniques et atmosphériques pour me douter, mettons, pour avoir une bonne idée, en fait, s'il va y avoir, oui ou non, des réchauffements atmosphériques soudains. On en a eu comme trois. C'est sûr que ça permet au mur là, qui retient l'air frais en haut là, de plus descendre sur nos régions. Puis ça crée aussi plus de tempêtes. Je m'attendais à des phénomènes, surtout aux États-Unis, là, de grosses poudreries, etc. Donc, on en a vu en Californie, à New York. C'est l'hiver auquel je m'attendais. Quand on regarde au Québec, on est à peu près dans la moyenne de 1991 à 2020. On n'est pas dans une grosse anomalie négative de température, si je regarde les données, sur 90 jours.
Un hiver traditionnel comme on ne se souvenait plus, finalement.
À peu près, puis c'est parce qu'il a commencé assez tôt. On a eu un automne là, c'était plus frais. Nous, ici, il y a eu une première gelée au sol le 18 août. On a eu de belles chaleurs après. Oui, nous autres, malheureusement, je n'étais pas là, j'étais parti en voyage de neuf. Mais c'est mes voisins m'ont dit pendant que je suis en voyage qu'il y avait eu la première gelée. On est haut ici, là, à presque 400 mètres d'altitude. Là. Alors, c'est sûr, puis c'était ça.
Okay, on a eu un hiver, mais on ne se souvenait plus que l'hiver existait encore, finalement. Puis on l'a eu d'en face.
On va en avoir plus que ça d'en face dans les années 30 et 40 quand l'oscillation atlantique multidécennale retournera en phase négative. C'est des choses qui sont assez faciles à prédire, puis ça va nous ramener à des hivers plus d'antan pour peut-être trois décennies au moins.
Rien à voir avec les GES?
Rien à voir avec les GES, parce qu'au niveau du CO2, là, il est pas mal atteint, même son double maintenant, là, ça va avoir des impacts assez infimes. Tout ce qui peut augmenter en ce moment la température au niveau, si on inclut uniquement là, les gaz à effet de serre, ouais. C'est la vapeur d'eau. C'est la seule molécule qui peut encore avoir une influence. Puis pour le reste, le méthane, on n'en parle même pas. C'est dans les dixièmes ou millièmes de watts par mètre carré.
Et dernière question, Carlos. Quel genre d'été on risque d'avoir selon tes projections, selon les modèles? Là, on a dit qu'El Niño revenait. Ça peut ressembler à quoi l'été? Puis on comprend que tu n'es pas astrologue, tu n'es pas magicien, tu es un passionné de la météo, on va le dire comme ça, un passionné de la science. Qu'est-ce que tu lis à date?
À date, ben là, le mois d'avril va être un peu décevant par rapport au mois de mars, on a eu des belles chaleurs, mais il va y avoir quand même des montées de chaleur, mais je m'attends pas là, à un mois d'avril exceptionnel. Puis en s'en allant vers l'été, ben oui, là, El Niño, on va tomber en phase neutre. Ben, quand on dit neutre, c'est pas parce qu'il arrête, là, c'est toujours en mouvance, là. Mais on va aller graduellement vers la phase neutre. El Niño peut-être rendu en automne. Mais dans cette transition-là, de la Nina vers la phase neutre, cet été, ça va être un été, d'après moi, à peu près sur les normales, étant la moyenne, la période de référence 1991 à 2020. Donc, un été qui somme toute, ne sera pas dans les extrêmes de chaleur là, à côté tout le long, ni de froid, mais ce sera pas un été, je m'attends pas à un été exceptionnellement chaud. Et un printemps plutôt
moyen.
Moyen.
Merci beaucoup, Carlos. Ciao. Merci. Merci. Bonne salut. Journée. Bye.